BPM.
Élections législatives 2022.
Et bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre sur BPM, le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12 juin et le second tour le dimanche 19 juin. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales où nous recevons les 10 candidats sur la 5e circonscription de l'Eure. Et aujourd'hui, nous recevons Karl Tokart, candidat donc de la 5e circonscription de l'Eure pour Debout la France. Karl Tokart, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Alors, vous avez 45 ans, vous êtes président de l'Association de défense des forains et circassiens, président de la Confédération française d'associations et de syndicats de la profession foraine et président du comité d'animation de la Saint-Sauveur aux Andelys et également membre de la commission foraine et circassienne mise en place par Édouard Philippe en 2018. Vous êtes donc le candidat sur la 5e circonscription de l'Eure pour Debout la France et votre suppléante s'appelle Sandrine Lecoquer.
Oui, tout à fait.
J'ai tout bon.
C'est tout bon.
Alors, durant cette émission, nous allons passer en revue votre projet pour la circonscription, vos propositions et priorités pour les 5 prochaines années. Tout d'abord, première question, question un peu générique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous présenter ?
Alors, j'ai décidé de me présenter parce que je défends ma profession, comme vous avez pu le constater. Et aussi bien que je peux défendre ma profession, et j'avais envie de défendre aussi les Français de la 5e circonscription de l'Eure. C'est pour ça que je me battrai pour eux si je suis élu député. Et je trouve que c'est tout honorable et je prends plus soin des autres que de moi.
Et du coup, on vous retrouve sous l'étiquette de Debout la France, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, parce que pourquoi sur l'étiquette de Debout la France ? C'est une personne qui a soutenu les forains, la profession foraine pendant le Covid. Et après, j'ai écrit une lettre aux, je crois qu'ils étaient 12 candidats à l'élection présidentielle, si je me trompe. Et sur les 12 candidats, il y a 3 personnes qui m'ont répondu. Donc, en premier, c'était Madame Nathalie Arthaud. Sa lettre était très bien faite, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose pour nous. Un petit mot de Monsieur Éric Zemmour, enfin son équipe, qui m'a envoyé un petit mot de Monsieur Zemmour, Reconquête. Et Monsieur Dupont-Aignan qui a répondu mot pour mot à ma lettre. Donc c'est pour ça, en plus de ça, que je me suis engagé sur Debout la France.
Alors du coup, il y a de cela quelques semaines, les Français sont allés voter lors des dernières élections présidentielles. Les résultats, 58,55% des votants ont voté pour Emmanuel Macron contre 41,45% pour Marine Le Pen. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce résultat au niveau national ?
Alors, le résultat au niveau national, je trouvais que c'était dans la logique du gouvernement à l'heure actuelle, car on a été un peu bridé de tous les côtés. Et donc, les Français étaient, à mon avis, c'était non à Monsieur Emmanuel Macron, président de la République.
Et au niveau local, puisque lors de ce second tour, le résultat n'a pas été le même par rapport au niveau national, ici, sur la 5e circonscription du département. Parce que Marine Le Pen est ressortie en tête avec 51,8% des votants contre 48,2% du coup pour Emmanuel Macron. Pareil, même question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce résultat ici ? Peut-être un peu plus surprenant ?
Peut-être pas, parce que bon, oui, surprenant dans un sens où que la majorité des campagnes ont voté beaucoup plus pour le Rassemblement National et c'était, on va dire, compréhensif sur le deuxième tour. Moi, ma politique, c'était tout sauf Macron. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens, c'était tout sauf Macron.
Passons à un autre sujet, un sujet qu'on retrouve au niveau national et évidemment au niveau local, c'est le sujet du pouvoir d'achat qui est en baisse, une forte baisse pour la plupart des Français. Vous, qu'est-ce que vous avez comme idée, comme proposition pour réussir un peu à l'améliorer ?
Alors déjà, une, je me battrai parce qu'on ne peut pas, moi-même, je ne peux pas sortir de mon chapeau tout seul un amendement. Enfin, un amendement, je peux le sortir, mais une proposition de loi, au moins de réduire la TVA de 0% sur les 100 produits de première nécessité et au moins baisser une fiscalité sur les produits énergétiques de 5,5% sur les produits énergétiques comme le pétrole, comme l'électricité, comme le gaz.
Il y a aussi une volonté dans votre charte, dans votre programme de hausse de salaire aussi de 8%, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça. En essayant de trouver un système, en baissant les charges salariales, éventuellement, l'employeur peut relever. Alors, c'est sûr que ça fait perdre de l'argent un petit peu à l'État, mais je pense qu'on peut quand même prendre en compte la situation des Français et de dire aujourd'hui, les salaires sont trop bas, il n'y a pas eu de revalorisation extrêmement. On fait marcher le carnet de chèques, on va dire ça comme ça, de 100 euros par-ci, 100 euros par-là, comme c'est le moment des élections ou comme il y a une grosse manifestation. Et je trouve ça bien dommage qu'on ne prenne pas en considération les Français.
Autre débat important qu'on retrouve partout en France, c'est celui de la réforme des retraites, la retraite à 65 ans. Vous, où est-ce que vous vous situez par rapport à cette réforme ?
Alors moi, je me situe, pour l'instant, je préférais la garder à 62 ans, voire même peut-être plus bas, mais si on peut, hein, je dis bien si on peut. Et donc pour moi, 62 ans, je trouve déjà que c'est un peu tard. Certaines personnes développent des maladies de dos, et 65 ans, c'est quand même énorme, hein, aller à 65 ans. Et si ça continue, dans 5 ans, on va dire 70 ans. Donc ça fait énorme pour les retraités. Et je trouve que certains commencent à travailler très très tard, hein, c'est sûr. Mais si on base ça sur les annuités, donc après 60 ans, c'est pour quelqu'un qui démarre de bonne heure, comme moi j'ai commencé à de bonne heure, on va dire, je pourrais prendre ma retraite à 55 ans. Donc, mais je le ferai pas, mais je pourrais prendre ma retraite à 55 ans.
Donc si vous êtes élu, vous vous engagerez à être contre cette réforme?
Ah oui, tout à fait. Je trouve ça honteux. On essaie de prendre des économies un peu à gauche, à droite je trouve ça pas bien de faire subir ça aux Français, et ça va encore créer des mouvements sociaux dans les rues, et je serai aussi participant avec les retraités. Je trouve ça tout à fait normal que les retraités respectent, car leur pouvoir d'achat à eux diminue sur l'inflation. Les pensions de retraite ne sont pas indexées sur l'inflation. Aujourd'hui, on a une inflation à peu près de 8%, et au mois de septembre, je pense qu'on aura une inflation de 12%. Donc j'imagine les retraités qui ont des petites retraites.
Alors passons maintenant au programme que vous portez, les idées, les propositions que vous avez avec ce sujet. On commence avec ce sujet qui vous tient à cœur. Vous êtes prêt à vous battre pour les libertés. Vous avez, le sentiment que ces libertés, elles ont été bafouées ces dernières années?
Alors oui, sur le moment du Covid qui est arrivé, je ne vais pas critiquer le premier confinement, parce que le gouverner, c'est prévoir. On a prévu quelque chose de drastique. On ne savait pas sur quoi s'attendre, le Covid, comme un exemple comme le Covid. Et on ne savait pas sur quoi s'attendre. Donc, je ne critiquerai pas le gouvernement sur le premier confinement. Je trouve qu'il a réagi sur une impulsion, et je trouve que tout le monde peut réagir autrement. Mais je ne critiquerai pas dessus. Simplement, sur les mesures qui ont été prises après, les atteintes avec le pass sanitaire, le fameux pass sanitaire, le fameux pass vaccinal après. C'est des libertés qui ont été prises aux Français. Ceux qui ne voulaient pas éventuellement se faire vacciner, ces personnes-là ont vu leur liberté fondre comme neige au soleil. Leur liberté de circuler, leur liberté d'aller au restaurant. Ils ne pouvaient plus aller au restaurant. Donc je trouve ça une atteinte à la liberté individuelle. Ceux qui veulent se faire vacciner, j'ai rien contre. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, j'ai rien contre non plus, si vous préférez. C'est la libre liberté des gens. Si aujourd'hui, on nous dicte de nous faire un vaccin, je trouve que c'est plus de la liberté. Alors, il y a des vaccins qui ont été prouvés, les vaccins obligatoires pour les enfants. Je trouve ça tout à fait pour, mais ils ont été prouvés sur 10 ans par des laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, on nous dit que c'est un vaccin. Il faut savoir que le vaccin anti-Covid, pour moi, ce n'est pas un vaccin, c'est un médicament. Parce que si on prend le dictionnaire Larousse et qu'on ouvre le dictionnaire à le mot vaccination, le vaccin nous empêche d'attraper la maladie et nous empêche de la transmettre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec le vaccin, soit Pfizer, Moderna, enfin peu importe.
Vous, votre position véritable autour de la vaccination, donc autour du Covid-19, c'est pas une position fondamentalement contre, c'est le fait d'avoir obliger les Français à se vacciner, entre guillemets.
Oui, à se vacciner et à empêcher les gens de sortir. Vous imaginez bien que de sortir au bout du deuxième, pas du premier, hein, je le dis bien, je ne critique pas le premier confinement, mais le deuxième confinement, ça a été un peu la bérénisa. Si vous ne faites pas vacciner, vous n'avez pas le droit de partir en vacances. Vous n'avez pas le droit de manger au restaurant. Alors, ce n'était pas une obligation de se faire vacciner. C'était simplement, aujourd'hui, on vous empêche de bouger si vous ne voulez pas y obéir. Un peu la punition de l'enfant du coin, quoi.
Autre sujet autour des libertés, c'est la vignette critère. Donc vous, de ce qu'on a parlé en amont de l'émission, de ce que j'ai compris, vous êtes particulièrement contre cette vignette ?
Oui, tout à fait. On va rogner les personnes qui ont un faible pouvoir d'achat. Comme moi, j'ai une voiture de 2000 aujourd'hui. Je ne pourrai plus arriver au mois de juillet à Rouen parce que ma voiture est trop vieille. Et d'après certains scientifiques, elle pollue beaucoup plus. Alors certes, elle pollue peut-être un peu plus que les autres, mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de m'acheter une voiture plus récente. Et je me mets aussi à la place des Français. Certains Français, on peut les voir en voiture, c'est des voitures qui sont propres, qui passent au contrôle technique, mais qui n'ont pas l'argent pour s'acheter une voiture plus récente. Une voiture plus récente, en ce moment, en plus, il y a eu la crise des voitures, que les voitures ont flambé au niveau prix, parce qu'il y avait une pièce, un composant qui manquait sur les voitures d'occasion. Donc ça, les voitures d'occasion ont pris un phénomène de rehausse, de survalorisation du prix coûtant d'une voiture d'occasion. Donc j'imagine les Français qui se serrent la ceinture tous les jours pour manger et pour donner à manger à leurs enfants. Et aujourd'hui, on va leur dire, ben non, vous ne pouvez plus circuler avec votre voiture parce que votre voiture est trop vieille. Donc je trouve ça un petit peu... Et donc il y a certaines personnes qui sont... à la limite de Beauce, qui travaillent à Beauce et qui sont à l'extérieur, ils sont à Pont-de-Large, et qui ne peuvent plus aller travailler à Beauce parce que leurs voitures vont être trop vieilles au mois de juillet et ils ne peuvent pas se racheter une voiture. Je trouve ça inadmissible.
Un autre sujet dans votre volonté de servir les citoyens, en tout cas les habitants du territoire de cette circonscription, vous souhaitez instaurer ce référendum d'initiative citoyenne. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ce référendum et comment est-ce qu'on peut le mettre en place ?
Alors, c'est simplement avec 500 000 signatures, on peut instaurer, enfin, si la loi est faite, hein, naturellement. On nous dit que le référendum, enfin le gouvernement nous dit que le référendum, alors ça c'est pathétique, hein, on nous dit que le référendum c'est un manque de démocratie. Ben là, on fait participer les citoyens à partir de 500 000 signatures. Quelqu'un qui récolte 500 000 signatures et qui se donne pour contrer une loi comme la réforme des retraites, comme la hausse des carburants, eh ben cette loi-là, on peut la contrer. Au lieu d'aller manifester comme j'ai été manifesté en 2018, avec un référendum à initiative citoyenne, on peut contrer cette fameuse loi sans manifester au bout de 500 000 signatures. Et je trouve ça beaucoup plus démocratique. Comme en Suisse, c'est un pays souverain, et la Suisse a son référendum à initiative citoyenne. Et ça se passe très très bien.
Abordons un autre thème qui semble vous toucher aussi, puisque ça touche votre profession, c'est que vous aimeriez inciter les maires d'organiser une fête foraine par an sur leur commune. Pourquoi, tout simplement ?
Alors, pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer tout simplement. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont trouvés assez mal, et on a fait des premières fêtes, entre guillemets, un peu bizarrement, mais on a fait des premières fêtes, et on a vu que les enfants sortaient avec le sourire et s'épanouissaient un peu plus. Donc, je me suis dit, une fête par an dans une commune, comme les gens ne peuvent pas partir en vacances, ne peuvent pas sortir trop du territoire, entre guillemets, bah, éventuellement, ça peut leur faire plaisir de venir se promener, de faire un tour aux enfants et sans pouvoir dépenser extravagamment une grande somme d'argent. Donc, je trouve que d'inciter, et en plus, ça provoque du commerce pour les forains.
Ça, le principal objectif, on l'a compris aussi autour des enfants, mais c'est aussi une volonté... de faire revivre les communes ?
Oui, tout à fait, parce qu'on apporte un attrait quand même festif dans la commune qui coûte très peu cher aux maires, parce qu'on paye un droit d'emplacement dans certaines communes. Dans d'autres, c'est gratuit, parce que les maires aiment la fête foraine, aiment, comme je vais citer, la commune d'Alizé. Alizé font un très gros programme là, à l'heure actuelle, pour la Pentecôte. Et du coup, on va dire que ça a été quand même une grosse fête foraine pour le village, pour un village de 2000 habitants. Mais c'est un maire qui a une volonté de faire plaisir à ses habitants.
Abordons un autre sujet totalement différent, c'est celui autour de la justice. Vous souhaitez la rendre plus dure envers les délinquants, et on pense notamment du coup aux violences faites aux femmes.
Alors oui, tout à fait. Et dans mon petit fascicule, j'ai oublié aussi les violences faites aux hommes. Parce que je trouve qu'il y a certaines personnes qui profitent des femmes, ou si bien des hommes qui tapent dessus. Je trouve ça un petit peu ça amer, et je trouve que ça arrive de plus en plus souvent. Et donc, une délinquance comme ça, je trouve que ça mérite zéro tolérance. Zéro tolérance.
C'est vraiment une véritable volonté pour vous de la rendre vraiment plus dure envers ces problèmes.
Oui, tout à fait. J'ai vu aussi des femmes se faire battre comme j'étais gamin. Des femmes se faire battre, ils sont fait battre. Et je trouve ça complètement amer. C'est une femme et voilà. Et j'ai pas mis les hommes, mais je sais qu'il y a des hommes qui se font battre aussi. Et je trouve ça, c'est le pouvoir psychologique qui ont les personnes sur les autres personnes comme on vit en couple. Et je trouve ça amèrement. C'est pour ça que je veux une peine, une exemplarité zéro vis-à-vis de ces gens-là.
Vous souhaitez également qu'à partir du moment où une personne est condamnée, que la peine soit réellement appliquée.
Oui, à l'heure actuelle, on le sait très bien, vous comme moi et les autres personnes, les peines ne sont pas réglées. Comme on prend une personne qui s'est fait contrôler avec 21 kilos de résine de cannabis, qui a été relâché et qui passe au mois de juin en jugement. Donc non, je trouve pas ça normal. Je trouve que voilà, faut essayer de faire le maximum pour que les peines soient exécutées.
Sur un autre sujet maintenant, c'est celui autour de la protection animale. Quels sont vos principaux axes de travail autour de cette protection animale?
Alors la protection animale, je suis guillemets, j'ai des enfants, hein, je suis comme tout le monde. Ma fille, je pourrais la considérer comme Brigitte Bardot. Donc, elle est très protectrice des animaux. Aujourd'hui, j'ai marqué dans mon petit fascicule, vous avez pu le voir, un cirque sans animaux est un cirque sans... C'est un cirque. On dirait plutôt un cabaret qu'un cirque. Mais aujourd'hui... On peut dire que aujourd'hui un cirque sans animaux, et c'est sur la protection animale, et là on m'a tapé dessus parce que les animalistes entre guillemets, on se présente aussi, hein, on m'a tapé dessus en disant oh là là, non aujourd'hui il y a des cirques qui mènent très bien leurs animaux, il y a certains cirques, et c'est pour ça que sur la protection animale je serai intransigeant que l'animal soit respectueusement respecté. Aujourd'hui c'est le respect de l'animal qui me tient plus à cœur. Alors, je prends en compte aussi les chasseurs, parce que c'est une tradition, la chasse. La chasse à tir, la chasse à cours. La chasse à cours est un petit peu plus barbare. J'espère ne pas me faire taper par les chasseurs, parce que, je suis chasseur aussi, hein, je l'avoue. Hein. Mais la chasse à cours est un petit peu plus barbare, mais la chasse à tir est aussi à prendre en compte comme la protection animale, parce que dans certains abattoirs, les animaux souffrent beaucoup plus que comme ils se font chasser. Donc aujourd'hui, on le sait très bien que l'abattage est très réglementé, mais certains abattoirs ne jouent pas encore le jeu. Si on voit les derrière des abattoirs, je ne vais pas dire que toutes les abattoirs ne jouent pas le jeu, c'est pas vrai, mais certains abattoirs, c'est compliqué. Donc sur la protection animale, comme on dit, les animaux ne doivent pas obéir au doigt et à l'œil, je vous assure, si vous dressez un tigre, et si vous le dressez par contrainte, il vous mange. S'il y a de l'amour entre le dresseur et l'animal, c'est comme un chien qu'on habitue chez soi, quoi.
Dernier thème pour conclure cette émission. Alors, on a une trentaine de secondes pour ce thème. C'est celui autour de la santé, celui de l'accès aux soins, les déserts médicaux. Un véritable souci ici sur le territoire. En une trentaine de secondes.
Alors, sur une trentaine de secondes, je vais faire très rapide. Monsieur Sarkozy pouvait libérer l'humérus clausus qui n'a pas fait, qui était de droite, ce monsieur-là, mais qui ne l'a pas fait, malheureusement. Ça a été sur un déréférencement de gouvernements qui n'ont pas enlevé l'humérus clausus, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on manque de médecins. Et par contre, le gouvernement Macron a supprimé 15 000 postes d'infirmières. Donc, je trouve ça honteux parce qu'ils n'étaient pas vaccinés lorsqu'ils voulaient bien se faire tester tous les deux jours avec un test PCR qui était plus fiable qu'un vaccin. Je trouve ça honteux.
Karl Tokar, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Cette émission sera rediffusée à 13h et à 18h30 et à retrouver en podcast sur bpmlaradio.com. Demain à 7h30, nous recevrons Delphine Blitman, candidate de lutte ouvrière. Et puis à 8h30, on retrouvera François Bonnet pour Reconquête qui viendra répondre à nos questions. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2022.